Patricia a parlé hier soir de trois des cinq voiles, des cinq forces plus haut. Hier soir, Patricia a parlé des cinq voiles, des cinq forces qui obscurcissent la nature déjà libre de l'esprit, de la conscience, en s'attardant davantage sur trois d'entre elles, le désir, l'aversion et le doute. Et peut-être l'occasion ici d'explorer un peu plus profondément les deux autres, ces deux autres forces qui viennent vraiment voiler cette nature non entravée de l'esprit, hein, qui sont, comme Patricia l'a nommé hier soir, l'agitation et l'inquiétude qui vont souvent de pair, et puis la paresse, la torpeur, léthargie, on pourrait utiliser d'autres mots. Et certainement que nous en avons fait l'expérience depuis que nous sommes ici, depuis ces trois jours maintenant de pratique, peut-être que nous sommes déjà très, 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 très familières avec ces émergences d'agitation, d'inquiétude, de torpeur, de somnolence. Et en même temps, on ne sait pas toujours comment nous relier à ces expériences. Et donc, peut-être pour revenir sur l'agitation elle-même, j'aime vraiment bien les mots pali, kukucha, et udacha et kukucha pour l'inquiétude. Et donc, l'agitation et l'inquiétude vont souvent de pair. L'agitation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cette qualité de nervosité, sentiment de dispersion, de distraction, de tourner en rond, un peu à l'image ici de ces mouches qui, par moments, virevoltent sans arrêt, font beaucoup de bruit, se posent une seconde et hop, redémarrent dans des tours. Elles ne se posent jamais vraiment très très longtemps, ces mouches. En tout cas, ça a été mon expérience depuis que j'étais ici. Et donc, cette surexcitation parfois, nervosité, à la fois physique et mentale. Hein, donc, il s'agit vraiment d'un excès d'énergie. Il y a trop d'énergie dans le système. Et donc, physiquement, ça peut se manifester par le fait de ne pas pouvoir tenir en place, d'avoir constamment envie de bouger, d'avoir envie de bouger les cheveux, de se gratter, tout le temps bouger un peu le corps, parfois de manière relativement délicate, parfois de manière un peu plus brutale. Cette idée de ne pas tenir en place. Et au niveau mental, bien, je pense que c'est très clair, je ne sais pas si j'ai besoin de le décrire, mais vraiment ce tourbillon, un tourbillon de pensée, quelle qu'elle soit, quel que soit leur contenu, mais ça tourne en boucle ou ça tourne dans différentes directions, dans tous les sens. Donc il y a parfois peu d'espace entre ces pensées. Parfois il y en a, mais il y a vraiment quelque chose de continu dans ce ressenti d'agitation. Et bien sûr, enfin je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, l'agitation, ça a plutôt une tonalité assez désagréable. Et donc je n'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et donc cette tendance à ne pas vouloir que ce soit là. Et donc cette tendance à ne pas vouloir que ce soit là, mais ça agite encore un peu plus l'esprit. Donc le fait de ne pas vouloir, c'est un petit peu comme cette boule à neige que je vais resecouer un coup, histoire que les flocons ne se déposent vraiment pas. Donc le Bouddha aime bien donner l'image de l'eau. Il utilise beaucoup l'eau, l'océan, la mer, les cours d'eau dans toutes ces images. Donc l'agitation, c'est vraiment l'image de l'eau agitée par le vent, par la brise, qu'elle soit douce, forte. Donc c'est vraiment la surface de l'eau qui devient trouble. Donc je ne peux plus voir clairement au travers. Donc là, on peut vraiment comprendre que l'agitation est un voile, un filtre qui ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc on pourrait se demander, mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui génère cette agitation? Alors évidemment, il n'y a pas une réponse à cela. Mais peut-être que, voilà, de déployer ici quelques chemins, quelques pistes potentielles d'exploration pour soi-même. Donc la cause de cette hyperactivité mentale, c'est déjà toute la volonté, toute la force, tous les efforts que nous mettons dans la pratique. Le fait de vouloir acquérir, obtenir, le fait de vouloir être présent, rien que déjà ça, placer la présence comme objectif, ça peut déjà créer de l'agitation intérieure. Alors, une possibilité, je vais revenir sur cette notion d'effort qui est importante dans la pratique. L'agitation, ça peut être tout simplement aussi une soif de stimulation. Il ne se passe peut-être pas grand-chose, je suis assise, c'est relativement calme, probablement un peu plat à un moment, un peu neutre. Et donc, je cherche de la distraction, je cherche de la stimulation, et donc je m'emballe à refaire la décoration de mon appartement, par exemple. Et ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'objets dans l'appartement, beaucoup de meubles, beaucoup de tableaux, alors... En plus, c'est agréable, enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc, je continue, je nourris, et ça s'agite encore et encore, et je reviens sur le tableau que j'ai placé à tel endroit, etc. Alors, trêve de plaisanterie, mais ça peut aussi provenir de toutes les émotions qui n'ont pas pu être adressées ou accueillies, ou vues, perçues, reçues. Et donc ça tourne en boucle l'histoire du passé, le ressassement, cette expérience-là ou cette situation-là avec cette personne ou cette situation au travail qui a été déplaisante, qui a été désagréable, peut-être un conflit. Et donc ça continue, ça revient encore et encore et encore parce que je reste fascinée par le contenu des pensées, par le contenu de tout ce qui a pu émerger dans le passé. Sans vraiment ressentir que, il peut y avoir de la peine par rapport à ce conflit, ou de la révolte, le fait de ne pas être d'accord, d'être en désaccord, et donc de ne pas être au contact de cette émotion qui est cachée par tout ce monde des idées, des pensées. Donc ça peut être une piste. Il y a aussi la fascination portée aux pensées elles-mêmes. La fascination portée au contenu. Il y a une espèce d'attirance par rapport à la réflexion, par exemple. Par rapport à on reçoit des enseignements ici, et c'est très nourrissant tout ça. Et donc je peux... me nourrir de ce qui a été dit, de ce qui a été entendu, interprété, et continuer la réflexion. Ça peut être très judicieux, bien sûr, de réfléchir aux enseignements, mais dans la pratique, on est là pour la pratique, pour la partie expérientielle, et moins pour la partie réflexive dans la méditation. Donc il peut y avoir cette fascination de verser dans quelque chose de conceptuel, du monde des idées, la philosophie, etc., etc. Et cette fascination, elle peut aussi se manifester. En tout cas, moi, c'est vraiment une grande tendance. Les pourquoi. Pourquoi cette expérience est là? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je pense à cette personne qui n'est pas ici? Et je pensais justement prendre de la distance avec cette personne. Et maintenant que je suis ici, elle revient. Pourquoi j'y pense autant alors que mon intention, c'était justement de ne plus y penser? Pourquoi j'ai mal au dos? Le pourquoi va alimenter un discours intérieur. Et ne va pas nous aider, le pourquoi en tout cas dans l'instant, ne va pas nous aider à être au contact. Il va justement nous éloigner du contact. Donc... l'invitation, en tout cas, est de remarquer aussi comment, par moment, je peux tomber dans peut-être une autre habitude, un autre mode, le mode problème-solution. Je peux avoir tendance à identifier quelque chose comme un problème, que ce soit une émotion ou bien une douleur dans le corps, c'est un problème, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être là. Et donc, je m'emballe à trouver des solutions ou un problème dans la vie, de manière générale, que j'identifie. Et voilà, je ne peux pas rester demeurer avec l'irrésolu. Donc, je cherche à tout prix une solution dans des ruminations qui sont complètement, souvent stériles. Ça tourne en boucle. Et donc, ça alimente l'agitation. Et donc, l'agitation, elle va souvent de pair avec l'inquiétude. Ça travaille vraiment ensemble. Donc l'inquiétude, l'anxiété, voilà, des ressentis très, très humains. Je veux faire du souci pour soi, pour les autres, pour le monde. Tout ça, c'est bien quelque part naturel. L'inquiétude, elle peut aussi prendre sa source dans différentes sphères. La sphère du remords ou du regret. Je n'aurais pas dû dire ça. Donc de vraiment regretter ce que j'ai dit et à nouveau de pouvoir ressasser cela et de tomber dans la culpabilité, dans le remords, dans peut-être l'irresponsabilité, dans l'autocritique, le jugement, toutes ces manières que nous avons de peut-être regretter certaines choses. Ou de ne pas avoir fait certaines choses, de ne pas avoir dit certaines choses qui auraient pu être dites, qui auraient pu être faites. Donc ça peut venir aussi alimenter une forme d'inquiétude. Et bien sûr, l'inquiétude par rapport à la pratique. Que nous soyons des méditants aguerris ou plus débutants, on peut s'inquiéter de l'évolution de notre pratique, des progrès, entre guillemets, de notre pratique. Et donc ça peut aussi venir nourrir une espèce de tourbillon intérieur. Tiens, mais où j'en suis? Comment ça se fait que j'en suis là? Et de s'inquiéter pour la suite. Est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver? Etc, etc. Et plus globalement, l'inquiétude, c'est vraiment s'inquiéter pour l'avenir, pour des choses qui ne sont pas encore présentes. Et donc, comment être avec ceci? Bien, c'est vraiment de baigner dedans, de mariner dedans, plutôt que de laisser nos modes habituels agir, et donc de ne pas vouloir l'inquiétude, de ne pas vouloir l'agitation, de ne pas vouloir le remords. Ben c'est vraiment la prise de conscience elle-même de ces états qui va faire que ces états mentaux, puisque ce sont bien des états mentaux, vont perdre de leur emprise. Parce que la conscience, la présence, va prendre le dessus. Et donc l'invitation, c'est vraiment d'aller pointer l'intérêt, la curiosité sur ces états mentaux qui nous traversent à la fois au cours d'une retraite, au cours d'une pratique, mais aussi dans la vie, hein, d'amener vraiment cet éclairage de la présence, plutôt que d'être pris dans le contenu. Bien souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on est complètement pris dans le contenu, dans l'objet de l'inquiétude, dans l'objet de l'agitation, sans reconnaître l'état mental. Donc plus je vais baigner dedans, plus je vais oser rencontrer, plus la présence va pouvoir vraiment prendre le dessus. Et naturellement, avec cette présence attentive, curieuse, avec ce contact curieux de ce qui est en train de se vivre, et bien c'est vraiment ce contact curieux qui, en quelque sorte, peut favoriser l'abandon de l'alimentation de cette tendance, de l'alimentation de l'agitation, de l'alimentation de l'inquiétude. Donc il y a vraiment cette possibilité de ne plus être agité par l'agitation, de ne plus être inquiété par l'inquiétude. Et il y a Suzuki Roshi, je ne suis plus très sûre de la phrase, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, qui dit qu'il ne s'agit pas d'arrêter l'activité mentale, mais que l'esprit peut recevoir la totalité des expériences sans être dérangé. Sans être dérangé. Donc il y a cette possibilité de pouvoir rencontrer un esprit agité, de pouvoir rencontrer un esprit inquiet. Ça fait partie vraiment de ressentis et d'expériences très, très humaines, qu'il ne s'agit pas de supprimer ou de mettre de côté, ou de mettre à distance. Et bien souvent, on peut avoir ces a priori, ces préjugés sur la méditation, que la méditation, c'est surtout pas un esprit agité, c'est un esprit posé, calme, tranquille, concentré, etc., etc. Donc ce qui importe, ce n'est pas le fait qu'il y ait ou non agitation et inquiétude, qu'il y ait ces tendances-là. Hein, ce qui importe, c'est la conscience de ces tendances, la conscience, la reconnaissance de ces tendances, la reconnaissance de l'agitation, la reconnaissance de l'inquiétude. Voilà, c'est très simple à dire. Dans l'expérience, on voit que ça, c'est parfois un grand défi de reconnaître ceci. On peut être pris pendant des heures et des heures et des heures, et puis à un moment, il y a un éclair de conscience qui reconnaît. Ah, mais en fait, c'est juste de l'agitation. Donc l'agitation, un excès d'énergie. Et puis, il y a sa sœur jumelle, qui est le manque d'énergie. Absence d'énergie, baisse d'énergie, perte d'énergie. Qui se traduit par ce qu'on pourrait appeler comme expérience, ce qu'on pourrait appeler comme la paresse, la torpeur, la léthargie, l'apathie, la somnolence, voilà, tous ces mots qui pointent vers cette expérience où il n'y a pas d'énergie, ou peu d'énergie. Peu d'énergie dans le corps, le corps est lourd, la tête peut, c'est comme si la tête plongeait dans le buste, il y a quelque chose de lourd, d'avachi, d'affaissé, l'esprit est lourd, l'esprit est opaque, il est en tout cas il n'est pas vif, il n'est pas alerte, il est un peu endormi. Donc là aussi il y a la possibilité de pouvoir rencontrer ceci, de pouvoir s'intéresser à ce phénomène en fait, tout simplement. Et pour redonner une image, le Bouddha parle d'une eau boueuse, une eau un peu stagnante, une eau marécageuse. Donc c'est très flou, très opaque, très collant, ça colle en fait. On s'enfonce, on s'enlise dans cet état mental-là. Une grande lourdeur. Là aussi, il y a plusieurs possibilités en termes d'origine. Tiens, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces... de la présence de cette paresse, de cette torpeur, bien ça peut parfois être simplement une vraie, vraie, vraie fatigue. Hein, et souvent, les débuts de retraite, on s'est probablement beaucoup affairé dans notre vie quotidienne, et encore plus avant une retraite de 15 jours où il faut clôturer plein de dossiers, il faut tout organiser, on s'est affairé. Et on arrive ici, et voilà, il n'y a plus de stimulation. Et en tout cas, il y a une solide baisse de stimulation, et donc voilà, l'esprit s'endort assez rapidement. Ça peut être aussi dû à un manque de sommeil ou à voilà, si je me resserre quelques fois au buffet, les repas sont peut-être tellement bons que j'ai tendance à me resservir, et puis je peux remarquer que la digestion devient un peu plus longue, un peu plus difficile, et bon, avec la digestion, il y a de la lourdeur et l'apathie, ou cette torpeur, elle peut vraiment émerger de ces simples conditions-là. Donc ça peut vraiment être une vraie fatigue physique, quelles que soient les circonstances. Mais ça peut aussi être une forme de déconnexion, de distance, d'éviter la rencontre avec le vécu. De s'éloigner, de se quitter en quelque sorte, de ne pas être là, parfois pas vouloir être là. donc cette déconnexion, elle peut aussi venir de cette qualité d'ennui. Comme je disais, il y a une baisse de stimulation, il se passe peut-être moins de choses, il y a moins de stimuli. Et donc, l'attention s'endort et du coup, l'ennui apparaît. Une forme d'ennui, un manque d'intérêt, il n'y a pas de curiosité, et donc ça plonge. C'est tout simplement les œillères se ferment, j'ai envie de dire. Donc pas de curiosité, donc pas de présence. Ça peut aussi être dû au découragement. Donc j'ai une session difficile, j'y arrive pas, j'ai toutes ces pensées qui me disent que j'y arrive pas, que je suis nulle, que c'est trop dur, que c'est trop difficile. Et donc il peut y avoir une forme de découragement qui peut contribuer à cette absence. Vraiment, découragement, il n'y a plus d'énergie, il n'y a juste plus d'énergie en fait. Et donc, l'énergie qui baisse petit à petit et qui fait que je tombe dans cet état de somnolence. Donc ça, c'est plutôt les aspects neutres ou désagréables. Et puis, après, évidemment, ça dépend de votre expérience. En tout cas, pour ma part, la somnolence est plutôt très agréable. C'est un petit nid douillet. C'est tout confortable. Il y a des petits mouvements du corps, il y a des petites bascules comme ça, très tranquille, ça tournicote un peu, mais pas. Ça reste confortable. Et donc, il y a une forme de complaisance qui s'installe. En fait, oui, je suis là, mais pas vraiment là, mais ça, c'est bon. C'est suffisamment bon, en tout cas. Et donc, il n'y a plus vraiment d'énergie pour vraiment réveiller l'intérêt, réveiller l'attention, réveiller la curiosité. L'esprit n'est pas assez alerte, vigilant. Il y a peut-être un peu trop justement de laisser aller, de détente, de tranquillité, et qui vire, à un moment, ça vire à la complaisance. Le terrain est sans doute un peu plus vaste que cela. Et donc là aussi, nos modes habituels par rapport à la somnolence, bien souvent, c'est on n'est pas là pour dormir, n'est-ce pas? On n'est pas là pour être absent, on est là pour être présent. Et donc, le mode habituel, c'est soit d'être complètement pris au piège, d'être vraiment emprisonné, d'être sous l'emprise de la somnolence, ou bien de se battre contre la somnolence. Et donc, se battre contre la somnolence, c'est un peu épuisant. On n'a déjà pas beaucoup d'énergie. Il n'y a déjà pas beaucoup d'énergie, mais en plus, je me bats avec ce qui reste. Donc, ça peut mener aussi à une forme d'épuisement. Donc, le fait même de porter attention à ces états mentaux, paresse, somnolence, torpeur, le fait même d'y porter attention, ça amène de l'énergie. Ça amène de l'énergie. Et peut-être que nous l'avons remarqué dans notre pratique, ça n'empêche pas, la somnolence n'empêche pas cette capacité de présence. Donc il y a vraiment moyen d'être présent au cœur de, que ce soit l'agitation, l'inquiétude ou la somnolence, la torpeur. Et là, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose qui à nouveau se réveille. Peut-être que ça peut être perçu comme un redressement intérieur, où tout à coup on s'était senti avachi, complètement refermé, et puis il y a comme un redressement, il y a une ouverture, il y a à nouveau une qualité de présence un peu plus alerte, un peu plus éveillée qui se manifeste. Donc comment travailler avec la somnolence? C'est d'aller vraiment... par moments, s'aider, s'accompagner, parce qu'il y a des moments où cette curiosité n'est pas disponible, et donc de pouvoir s'aider, s'accompagner dans le processus, et de simplement, tout simplement parfois juste ouvrir les yeux, peut amener un autre rapport, ou se mettre debout. J'ai vu quelques personnes être debout, alors je ne sais pas si c'était pour cette raison-là ou pour une autre. Donc voilà la posture debout, mais c'est peut-être plus difficile de s'endormir étant debout, étant en assise. Donc ça peut aussi réveiller un petit peu cette présence. Et bien sûr de réveiller le corps, hein, donc de pouvoir mettre le corps en mouvement. Donc, typiquement pendant la marche, de pouvoir peut-être marcher un peu plus rapidement, hein, d'aller refaire stimuler l'énergie dans le corps. Corps-esprit étant très fort relié, ou simplement de bouger, voilà, de remettre du mouvement, de remettre de l'énergie dans le corps. Donc le moyen habile, ce n'est pas d'aller se resservir une énième tasse de café. Ça ne va pas aider. Enfin, ça peut peut-être un peu aider, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas en substituant, en utilisant un substitut que nous allons pouvoir rencontrer la somnolence. L'idée, c'est de ne pas s'en débarrasser, c'est vraiment de pouvoir la rencontrer, à nouveau de pouvoir baigner dedans, de sentir, de l'éprouver pleinement, de pouvoir la goûter à un état particulier. Voilà, donc l'agitation, la torpeur, excès d'énergie, trop peu d'énergie. Alors, qu'est-ce que ce serait une énergie équilibrée? Quelle est l'énergie à déployer pour être véritablement là, présent, à ce qui surgit dans l'instant, à l'expérience présente? Est-ce que ça demande de l'énergie? Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie, un peu d'énergie? Si je nous invite à ressentir le contact du bassin sur notre siège, quel qu'il soit. Contact du bassin avec le coussin, le banc, la chaise, le bobsit. Est-ce que ça demande de l'énergie? Ça demande de l'effort? Oui? Non? Non, j'entends des tout petits noms. Ça demande pas d'effort. Et qu'est-ce qui demande de l'effort alors? Qu'est-ce qui demande de l'énergie? C'est vraiment de pouvoir demeurer au contact. C'est la continuité de la présence qui demande une certaine qualité d'énergie. Cette constance, cette régularité, cette continuité. Une forme de persévérance. Et ça, dans les enseignements, le Bouddha en parle à de nombreuses reprises, cette qualité de virya. Virya, en pali, qui se traduit de multiples manières, tellement le territoire est vaste et très nuancé. Donc virya veut dire énergie, effort, persévérance, constance, assiduité, engagement. Parfois même enthousiasme. Il y a vraiment différents territoires ici, différentes nuances, et peut-être en aborder quelques-unes avec vous ce soir. Donc si la présence ne demande pas nécessairement d'effort, peu d'effort, alors qu'est-ce qui fait que habituellement nous venons à la méditation avec souvent beaucoup d'efforts. On essaye vraiment dur de méditer. Parce que bien souvent, nous amenons nos modes habituels, nos manières, nos habitudes de faire des efforts dans la vie, dans le quotidien, nous l'amenons dans notre méditation. Donc quels sont nos modes habituels? Eh bien, il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a un qui a déjà été exploré et nommé dans un groupe ou deux d'entretiens. Ça a certainement déjà été nommé aussi dans les enseignements. C'est cet effort volontaire. Cet effort qui est issu de la volonté dans le but d'obtenir quelque chose, d'acquérir quelque chose, dans le but de devenir quelqu'un, dans le but d'obtenir un résultat. Donc, que ce soit dans la vie... ou dans la méditation, dans la vie, je peux travailler dur au boulot pour obtenir une promotion, pour obtenir la reconnaissance de mes collègues, pour obtenir une augmentation de salaire, que sais-je encore. Et dans la méditation, je peux faire beaucoup d'efforts pour obtenir la présence elle-même, obtenir le calme, obtenir une expérience particulière, avec cette idée de réussite, ou cette idée d'atteindre quelque chose de spécial, d'atteindre peut-être, obtenir l'éveil. Et donc il y a vraiment cet effort sans relâche qui pointe vers l'obtention d'une expérience ou d'un résultat. Et évidemment, quand j'obtiens pas ce que je recherche, ça peut générer beaucoup d'états intérieurs un peu oppressants, un peu difficiles, douloureux. Alors, il peut y avoir de la frustration, du découragement, de la colère, de l'agacement. Et donc, on voit bien que l'effort issu de la volonté génère davantage de stress et de souffrance que de l'enthousiasme ou de la joie ou du contentement. Et donc c'est un effort finalement, ces efforts habituels sont des efforts qui sont mus par les trois autres voiles, le désir, l'aversion et le doute. Souvent les efforts que nous offrons sont issus de ces trois tendances-là. Donc celle que je viens de nommer, mais issue du désir. Je désire quelque chose, que ce soit quelque chose de noble ou quelque chose de moins noble. Il y a vraiment le désir qui motive cet effort volontariste, cet effort d'exigence, cet effort de réussite. Et puis il y a l'effort que j'appellerais guerrier, qui est mu par l'aversion, où il y a beaucoup d'ennemis, d'obstacles sur le chemin. Et donc je sors le sabre et j'essaye de me débarrasser de tout ce qui encombre le chemin. Les ruminations, les obsessions, les émotions envahissantes, l'esprit non coopératif, etc., etc. Les douleurs dans le corps. Voilà, je rentre en guerre, en lutte. Je me débat avec. Et puis, j'ai observé une autre qualité d'effort. L'effort qui a un sens d'obligation. L'effort du « il faut que je me tienne droite dans l'assise » ou « je dois demeurer au contact, je dois accueillir l'expérience, je dois accueillir l'inconfort physique » ou « je ne dois pas bouger pendant l'assise ». Tout ce qui est issu vraiment de ces « il faut et je dois ». Là, ces efforts-là, ils sont des efforts qui ne sont pas tellement justes parce qu'ils génèrent de la contrainte. Enfin, ils sont surtout issus de la contrainte. Il n'y a pas tellement de liberté là-dedans et il y a beaucoup de souffrance que je rajoute déjà à l'expérience. Et puis il y a des efforts un peu plus tièdes, un peu avec moins d'enthousiasme, des efforts où il y a un petit peu d'attente, mais où je laisse la méditation faire le travail, si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, oh, la méditation va faire le truc, et moi je peux me retirer et juste laisser les choses se dérouler. Donc on voit bien que tous ces efforts ne sont pas tellement ajustés, en fait, puisqu'ils génèrent quand même pas mal de contraction intérieure, contraction de l'esprit qui est toujours préoccupé par un moment futur quand il s'agit d'un effort volontaire pour obtenir quelque chose. Donc ces efforts-là rajoutent davantage de détresse, de souffrance. Et donc ça peut être intéressant dans notre pratique d'aller explorer la nature des efforts que nous sommes en train de fournir, de faire de l'effort l'objet de notre pratique. Parce que ça dit beaucoup de choses à notre sujet, ça dit beaucoup de choses au sujet de nos croyances, de nos croyances limitantes, de qui nous sommes, de ce que nous pensons être, de ce que nous pensons être possible ou être impossible. Ça nous offre déjà pas mal d'informations, en fait. La manière dont je me relie à l'effort et l'effort lui-même. Si j'ai la croyance que je ne suis pas assez bien, ou que je ne suis pas à la hauteur, ou que je suis une personne battante, que j'y vais à fond, eh bien là, ça va probablement colorer la qualité de l'effort que je vais inviter dans la pratique. Donc, curiosité pour les efforts, quels qu'ils soient justes ou moins justes, hein, d'aller vraiment amener de la curiosité là-dessus, ça peut être très riche d'apprentissage. Et bien sûr, je ne l'ai pas nommé, mais par moments, il y a zéro effort, où je tombe dans la passivité, l'immobilisme, aucun effort. Et là, ça peut mener justement à l'état de somnolence, à l'état d'apathie, à l'état de « je ne suis plus vraiment là pour ce qui se passe ». Donc, qu'est-ce que ce serait alors l'effort juste ? Suspense. Ah ouais, c'est l'effort juste, c'est un effort justement qui n'est pas issu de la volonté, de l'ambition, du contrôle, de l'interférence. C'est un effort qui est simplement, qui résulte simplement de la présence, de cette qualité d'attention délibérée, une attention réceptive à ce qui est. Un effort qui est empreint de bienveillance, qui est empreint de patience, qui est empreint de compassion. Donc un effort qui a toutes ces qualités et qui vient vraiment de cette intention, de cette sincérité. Sincérité d'être juste là avec ce qui est, un effort sincère qui prend racine dans nos aspirations, qui est différent, aspirations différentes de désirs, attachements dans ce cas-ci, prend racine vraiment dans notre aspiration à peut-être à la liberté, donc un effort qui est au service de la liberté, de la sagesse, au service d'une certaine transformation. Et qui résulte de la présence elle-même. Et le fait de pouvoir cultiver cette qualité de présence d'un instant à l'autre, eh bien, ça va amener de l'énergie. Et l'énergie va se renforcer quand nous pratiquons avec l'effort juste, ni trop, ni trop peu. Ni trop d'énergie, ni trop peu d'énergie. Et bien sûr que l'énergie ou l'effort, comme tout autre phénomène, toute autre chose, c'est un processus dynamique, changeant, c'est fluctuant. Par moments, il y a peu d'énergie, par moments, il y en a beaucoup. Et donc, une partie de la pratique, c'est aussi de pouvoir naviguer et s'accompagner dans ces fluctuations d'énergie, ces fluctuations de l'effort, de pouvoir reconnaître en fait ce qui est à l'œuvre, et de pouvoir s'accompagner en ce sens. Et donc il y a tout un nuancier, j'ai envie de dire, un nuancier dans l'effort. Ça peut être un effort très doux, très délicat, celui de la persévérance, à chaque fois que je ne suis plus vraiment là, mais de pouvoir se réengager encore et encore, de pouvoir se réengager dans le processus même de la pratique, d'être au contact, de la rencontre. Par moments, ça peut être un effort un peu plus héroïque, qui est plus de l'ordre du courage, le courage pour ne pas reculer devant les défis, devant ce qui est difficile, devant toutes ces émotions parfois affligeantes qui peuvent nous traverser, tristesse, peine, peur, confusion, impuissance, colère, pas toujours facile d'être au contact de ces émotions. Et donc là, l'effort, c'est vraiment celui du courage. Ça prend la couleur du courage. Dans courage, il y a cœur, de pouvoir ouvrir en quelque sorte notre cœur à ces émotions-là ou à tout autre défi qui se manifeste. Donc tout un nuancier. Et donc il n'y a pas une recette. C'est pas que il y a une recette pour trouver l'effort juste, l'effort équilibré. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à un des sutras assez connu, j'ai envie de dire, qui est souvent offert dans les enseignements, le Sona Sutra, le sutra de l'ancien musicien Sona, disciple du Bouddha, qui pratique vraiment assidûment, de manière assez volontaire, et pratique sa marche méditative jusqu'à ce qu'il ait les pieds ensanglantés. Et donc il va trouver le Bouddha et lui dit, mais franchement là, ça va plus, regarde, j'ai plus d'énergie, je suis à bout, je suis épuisé. Et donc comment faire, comment être avec ça au cœur de ça? Et donc il lui rappelle que dans son ancien temps, il était musicien, et donc comment est-ce qu'il accordait son instrument à corde? Et donc tout simplement, quand la corde elle est pas suffisamment tendue, quand elle est trop lâche, elle ne produit pas de son. Et quand la corde est trop tendue, eh bien elle casse. Et ce que j'aime vraiment bien dans cette métaphore, cette analogie, c'est qu'un instrument à musique, eh bien ça n'est jamais accordé une fois pour toutes. C'est un rééquilibrage constant. Donc ça demande une grande sensibilité, une écoute attentive. Ça demande d'être vraiment proche de l'expérience, de pouvoir percevoir quand il y a justement trop de vigilance, trop de contrôle, trop de tension, de contraction, trop d'effort. Et de pouvoir aussi ressentir quand justement il n'y a plus vraiment d'effort fourni, il n'y a plus vraiment d'énergie, de curiosité, d'intérêt. Donc ça demande vraiment quelque part une grande délicatesse, voilà, sans se prendre la tête, sans se prendre non plus trop au sérieux, mais de pouvoir être à l'écoute. Donc, comment je peux rester à la fois engagée dans la pratique, sans forcer, sans s'efforcer, et comment je peux rester aussi dans cette qualité d'aisance, de réceptivité, d'écoute, de sensibilité. Donc il n'y a pas d'équilibre parfait. De pouvoir rencontrer ces moments de déséquilibre, ces moments d'équilibre, de pouvoir les reconnaître comme nous apprenons à reconnaître l'agitation, la somnolence, le désir, l'aversion, le doute. C'est d'apprendre aussi à reconnaître la qualité d'effort qui est présente. Est-ce que c'est un effort équilibré? Est-ce que c'est un effort déséquilibré? De pouvoir être au clair avec ça. Et peut-être une manière de le percevoir, ça peut être de voir si l'effort offert est source de frustration, de découragement, d'impatience, d'énervement, d'agacement, s'il est source de contentement, de joie, d'aisance, de détente, de tranquillité. Ça peut nous aiguiller en quelque sorte. Et c'est vraiment la pleine conscience elle-même qui va soutenir cette exploration de l'énergie, de l'effort, cette qualité de présence attentive. Alors, ce qui peut être peut-être intéressant, c'est de se rappeler que que l'énergie, elle est finalement... On dit souvent que là où va l'attention, va l'énergie. Et donc, là où je porte l'attention, va l'énergie. Donc si je porte l'attention sur mes tendances habituelles, c'est ça que je vais faire grandir. Donc l'effort ici, ça peut être de ne pas perpétuer des tendances habituelles, toutes simples, hein, liées à nos conditionnements de base, j'ai envie de dire. Donc si je ne choisis pas d'orienter mon attention sur quelque chose de particulier, sur l'expérience présente, eh bien l'attention, elle va se diriger d'elle-même. L'énergie, elle va se diriger d'elle-même. Et elle va se diriger où ? Vers nos habitudes. Nos habitudes de nous agripper à ce qui est plaisant. Nos habitudes de rejeter, d'éviter ce qui est déplaisant. Et des habitudes de déconnexion, de distance, de distraction, quand l'expérience est neutre. Donc nous avons une responsabilité ici dans la pratique de pouvoir orienter notre attention, orienter l'énergie, de manière à ce qu'elle ne nourrisse pas les habitudes. Donc j'ai peut-être envie de terminer avec une petite citation. C'est plutôt un texte, un poème de Gwendun Rinpoche. Je vais juste vous lire un extrait. Le bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté, mais réside là tout proche, dans la détente et l'abandon. Ne sois pas inquiet, il n'y a rien à faire. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès qu'on relâche cette saisie, l'espace est là. Ouvert, hospitalier et confortable. Alors jouis-en. Ne cherche plus. Tout est déjà tien. À quoi bon aller traquer dans la jungle inextricable l'éléphant qui demeure tranquillement chez lui ? Cesse de faire, cesse de forcer, cesse de vouloir, et tout se trouvera accompli, naturellement. Donc de pouvoir peut-être aller marcher avec cette qualité d'attention sur peut-être la nature de l'effort qui est fourni dans la marche. Est-ce que je fais vraiment un effort pour marcher, marcher lentement, marcher à un certain rythme, déployer un certain pas ? Est-ce qu'il y a du contrôle ? Est-ce qu'il y a une volonté d'arriver quelque part, de pouvoir être au clair avec cela, de pouvoir nourrir l'effort de la rencontre elle-même avec l'expérience, plutôt qu'un effort qui se dirige vers un moment futur, qui s'oriente vers l'obtention d'un résultat.